affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
De Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va prendre la forme d'une enquête sur l'un des personnages les plus célèbres, mais peut-être paradoxalement aussi l'un des plus mal connus de l'histoire de France. Nous allons en effet nous intéresser à Louis XIV, mais également aux représentations successives et souvent contradictoires que nous en avons, nous Français. Dans notre roman national, Louis XIV occupe en effet une place bien singulière. Il suscite aujourd'hui encore la fierté, mais aussi la raillerie. Il incarne tour à tour l'arbitraire ou le despotisme, ou au contraire, l'émergence d'un État moderne, certains allant jusqu'à voir en lui un précurseur étonnant de la Révolution. On admire bien sûr les fastes de Versailles, les raffinements de la cour qui flattent notre orgueil national, mais sans omettre simultanément de se gausser un peu niaisement du prétendu manque d'hygiène de cette même cour. Pour démêler cet écheveau inextricable de demi-vérités, de vrais mensonges, d'anachronismes historiques, de diffamations ou de préjugés, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Yves-Marie Berset. Yves-Marie Berset, bonjour.
Bonjour.
Yves-Marie Berset, vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, vous avez dirigé l'école des chartes et vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Enfin, vous avez publié récemment un ouvrage visant justement à dresser la liste des idées reçues circulant sur Louis XIV, sa personnalité et son règne, un ouvrage qui vise bien sûr également, dans le même temps, à rectifier ces idées reçues pour nous faire découvrir le véritable Louis XIV. Comment vous est venue l'idée de publier cet ouvrage ? En avez-vous ressenti la nécessité ?
Pour dire le vrai, je n'ai pas eu l'initiative du titre et de la problématique, c'est-à-dire d'une recension des idées reçues, des opinions toutes faites, des clichés sur la personne de Louis XIV et les images de son règne. En fait, c'est un petit éditeur, le Cavalier Bleu, qui crée une collection idées reçues sur toutes sortes de sujets et de domaines qui tiennent le plus souvent d'ailleurs aux sciences exactes. Et aussi, ils ont ce créneau peut-être beaucoup plus réduit sur l'histoire qui m'a été proposée. Et je l'ai trouvé séduisant dans la mesure où, comme vous l'avez dit, Louis XIV appartient en plein et le plus glorieusement possible à ce que l'on appelle le roman national. Alors, qu'est-ce que c'est le roman national ? C'est la collection des images, des bribes de mémoire héritées d'un enseignement que l'ensemble des Français, ou que le Français moyen, mettons, a gardé en tête et qu'il peut retrouver au hasard d'un film historique, de la lecture d'un roman ou d'une visite des châteaux de la Loire pendant une semaine de vacances. Alors, ce roman national, à la vérité, je crois, il tend à se réduire aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, la place de l'histoire dans l'enseignement, à tous les degrés d'enseignement, mais spécialement dans l'enseignement primaire et secondaire, a été prodigieusement restreinte et où elle a été étendue, à juste titre, à une vision plus globale de l'histoire de l'humanité, au détriment justement de, je dirais, de la collection d'images, de personnages, d'événements glorieux ou malheureux qui faisaient cette sorte de mémoire qu'on appellerait un roman, qu'on a appelé assez récemment un roman national, dans la mesure où les auteurs de ces termes ont été sensibles à l'aspect d'affabulation, reconstitution romanesque.
Un peu épique.
Épique ou désastreuse, puisqu'il y a toute une part aussi de dénigrement du passé qui est propre, je dirais, à l'esprit humain, mais qui peut-être est plus pertinente, plus forte encore dans le tempérament français. Et quand on revient d'autres pays, enfin, pas tellement lointains, mais enfin, mettons tout simplement du Royaume-Uni ou bien des États-Unis d'Amérique, on est frappé par la constance, la présence dans le paysage, des emblèmes nationaux, des références à ce roman national, comme par exemple les personnages de l'indépendance américaine, très proches, deux siècles et demi simplement, à la présence du drapeau américain à chaque porte. Il y a une conscience de ce roman national qui est aiguë, intense, et qui ne remet pas en cause les légendes, il y en a énormément, sur le passé anglais ou américain. Alors, en France, au contraire, on a un parti pris de dénigrement qui tient sans doute aux scansions révolutionnaires, violentes, aux changements de régime qui ont marqué le 18e, le 19e et le 20e siècle, et qui sont toujours, je dirais, flagrants dans la mesure où ils sont cultivés par les régimes en place, où ils sont devenus une vulgate d'un enseignement trompeur, bien entendu. Alors, ce roman national, au fond, je ne regrette pas tellement qu'il se restreigne, qu'il se réduise, dans la mesure où, d'abord, il véhiculait un très grand nombre de contre-vérités, qu'une contre-vérité est toujours à terme, doit engendrer inévitablement des erreurs, des interprétations politiques, des catastrophes. Et puis aussi parce que, après tout, ces grandes images qui, elles, peuvent subsister, elles appartiennent pas seulement au passé national français, mais, je dirais, à l'histoire de l'humanité par leur ampleur, par le rôle qu'a joué la France sur plusieurs siècles dans l'histoire du monde. Ce n'est pas du tout une complaisance de dire qu'effectivement, Louis XIV, qui a eu le règne le plus long, le plus prestigieux au cours de la chronique de la monarchie française, et pas seulement un grand roi français, c'est dans l'histoire de l'humanité le parangon de la royauté, le modèle par excellence. Pourrait-on citer Charlemagne, Charles Quint, Louis XIV, voilà, ce sont des personnages qui échappent à une contextualisation strictement locale, nationale, et qui sont importants pour comprendre l'histoire de l'humanité. Alors, c'est là que je dirais que les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, qui sont les responsables de la facture des programmes, se trompent lourdement dans la mesure où ils croient, à juste titre, essayer d'élargir la vision globale de l'enseignement, mais c'est au prix de la chute, de l'obscurcissement d'épisodes comme le règne de Louis XIV ou la période napoléonienne, qui joue dans l'histoire du monde un rôle d'exemple, d'échelon charnière, de moments exemplaires qui sont importants dans la connaissance et importante aussi bien pour les Américains, pour les Russes ou les Australiens.
Donc ce que vous semblez déceler, c'est une forme d'apaisement, mais au prix de l'effacement. Mais en même temps, la stature...
C'est-à-dire que je pense que les querelles sont franco-françaises et qu'elles sont fausses et qu'elles n'ont pas... Surtout, il faut les rejeter au nom d'une histoire savante, dans la mesure où l'histoire, c'est la science du temps. Toutes les opérations sublunaires de ce bas-monde sont soumises au temps. Donc, l'histoire, c'est la science des sciences. Travailler à l'histoire, c'est travailler à l'avancement des connaissances. Ce n'est pas travailler à l'illustration des préjugés ou des idées reçues.
Alors, précisément, quelles sont les principales idées reçues que vous avez recensé sur le personnage, d'abord sur le personnage de Louis XIV. Parce qu'on ne s'attache pas seulement à cette décision, mais aussi à l'homme lui-même.
Alors, parmi les premières, les plus monumentales des idées reçues, il y a celle que Louis XIV a voulu donner de lui-même et celle que, je dirais, les représentations de son époque trouvaient convenable pour la grandeur d'un monarque, pour dessiner sa puissance. Alors, on le voit dans les portraits de Hyacinthe Rigaud de Lebrun, en pied ou assis sur un trône, avec une perspective ascendante, ce personnage chamarré, couvert d'ordre, d'habits de soie, et couronné d'une abondante perruque extrêmement haute et longue, dont il a lancé la mode dès sa jeunesse. Il se paraît donc figé dans la pompe, dans la solennité. C'est l'image qu'il a voulu donner de lui-même, de cette puissance et de ce caractère impavide et indiscutable de sa souveraineté. Or, c'est là que l'idée reçue, bien sûr, peut laisser l'enquête, si vous voulez, déceler, soulever quelques voiles. On s'aperçoit que Louis XIV, et c'est l'étude de la jeunesse souvent qui est la plus révélatrice, c'est un timide corrigé. Il a été enfant, il a subi au fond le type de formation qu'avaient les jeunes princes de ce temps, avec le paradoxe d'être à la fois à un âge très tendre, entouré d'honneurs, de cérémonies, de marques de respect, et puis subir les humiliations, les difficultés qui sont propres à l'enfance en tout temps et particulièrement à cette époque au XVIIe siècle. Donc il y a une dualité de traitement que ces souverains enfants ressentent et Louis XIV n'a pas pu ne pas échapper, si vous voulez, à ce modèle, au fait qu'il a été couronné à 5 ans alors qu'il est encore pas maître, bien sûr, de lui-même, de son comportement, et qui va supporter jusqu'à l'âge de 20 ans la tutelle d'un principal ministre qui ne lui laisse aucune place pour l'initiative, pour même l'adaptation, l'éducation politique. Il a été obscurci, il a été choqué d'ailleurs, il faut le dire, par l'ombre de Mazarin, dont il ne parle plus jamais après sa mort. Après la disparition de Mazarin, Louis XIV tire un trait, si vous voulez. En fait, il n'y a certainement jamais eu de liaison entre sa mère, la régente Anne d'Autriche, et Mazarin, mais il y a eu une indulgence, un sentiment partagé qui fait qu'Anne d'Autriche a effectivement protégé constamment Mazarin et l'a tiré d'affaires, a réussi, si on peut dire, à maintenir Mazarin à la tête du pouvoir pendant toute la crise de la Fronde. Et Louis XIV, comme tout enfant, jaloux de sa mère, il n'y a pas besoin d'être faire un grand théorème freudien pour le comprendre, ressenti une hostilité profonde envers Mazarin. Et c'est un rejet que l'on retrouve après, dans la suite de son règne. Voilà, déjà, on s'aperçoit donc que c'est un timide. Il est, alors aussi, il est intelligent et il est appris assez tôt à comprendre ses limites. Ce n'est pas un grand orateur, ce n'est pas un grand intellectuel, il est intelligent, mais ce n'est pas un homme de science, si vous voulez. Il a une très bonne compréhension des faits, il peut même devenir, il le deviendra par goût, par application, expert, par exemple, dans les domaines de stratégie militaire, de polyorcétique, de connaissance de l'artillerie et des fortifications, où il devient tout à fait capable, dans les années 1690, de conduire lui-même avec Louvois, puis avec Chanlay, depuis son cabinet de Versailles, les opérations militaires. Donc, il n'y a pas lieu de le sous-estimer. Mais il sait qu'il n'a pas la capacité des improvisations, des discours, de l'argumentation. Il écrit tout ce qu'il prépare. Il a des manières de se faire ressouvenir. Il a des pense-bêtes, on dira. Et il évite toujours d'affronter des personnages qui auraient trop de brio, trop d'éloquence. Il se méfie des doctrinaires, aussi bien des dévots, des jansénistes ou des réformés. Et il s'enferme dans cet aspect qu'il choisit très personnellement de superbe, un peu dédaigneuse, silencieuse. Et aux importuns ou aux solliciteurs ou à toutes les personnes qui viennent demander quelque chose ou le conseiller, il répond classiquement, et c'est observé par tous les contemporains, « je verrai ». Il s'enferme là derrière ce qui est tout simplement un voile de prudence. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a appris à se connaître, c'est un timide corrigé.
Et vous pensez donc que la pompe, les fastes, l'étiquette également sont en quelque sorte des instruments mis en place, voilà, pour se protéger lui en tant que personne, mais aussi protéger la fonction.
Protéger la fonction, c'est ce qu'on appelle à l'époque l'étiquette de cour. Or, l'étiquette, le terme apparaît à la fin du XVIe siècle, c'est l'ensemble de règles, de hiérarchie, de comportement, de type de comportement qu'il faut avoir en groupe ou autour d'un personnage d'autorité. Et c'est à partir de modèles de la cour espagnole que ces règles vont se diffuser dans l'ensemble de l'Europe, aussi bien dans l'Angleterre d'Élisabeth que à la cour de France. Mais en France, on a le premier souverain, si on peut dire, qui a un but d'étiquette, c'est Henri III, profondément. Henri IV, en tant que guerrier, parvenu assez tard à l'exercice du pouvoir souverain, il y est indifférent. Louis XIII est timide, renfermé et n'extériorise pas, ne cherche pas à extérioriser et donc à se soucier des problèmes d'étiquette. C'est Louis XIV qui, après tout, a reçu l'éducation maternelle d'une princesse d'Espagne qui d'ailleurs connaît l'espagnol, a en quelque sorte choisi par goût et par principe politique de créer toutes sortes de catégories, de règles. Il adore effectivement les règlements de cour. On le voit particulièrement. On le voit partout, si on peut dire, mais on le voit particulièrement dans l'emploi du temps de sa journée, dans les rapports qu'il a avec tous les gens qu'il doit rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi et particulièrement dans la conduite des armées, où il invente une hiérarchie entre les régiments, leur place sur le champ de bataille, il fait préciser l'ordre des grades militaires. Il est très soucieux, bien sûr parce que c'est fonctionnel pour l'opérationnalité militaire, mais aussi par une sorte de goût de la cérémonie et de l'ordonnancement. C'est à la fois un goût et une nécessité politique.
Oui, c'est-à-dire qu'avec le temps passant, on a un petit peu l'habitude de voir ce goût de l'apparat comme quelque chose d'un petit peu infatué ou ridicule. Ce que vous semblez défendre comme idée, c'est que cette volonté de réglementer les usages, tient une forme d'ordonnancement pré-administratif.
Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut relativiser, c'est-à-dire qu'on trouve la même chose, enfin, mutatis mutandis, à la cour d'Angleterre, à la cour d'Espagne ou à la cour de Vienne. Donc, il n'y a pas là un phénomène français ou Louis XIV en particulier. Mais il est vrai que Louis XIV et sa génération en France portent ce type de comportement social, de visualisation à un niveau qui, enfin, à un degré d'observation qui n'avait pas été aussi intense jusque-là. C'est une nouveauté de politesse de cour. Et ce qui est quelque chose qui, les hiérarchies sociales qui se marquent par exemple par le fait d'être assis à genoux ou debout, quand on parle, quand on prend la parole, de céder le haut du pavé, de passer de le premier ou un autre, de prendre la parole selon un certain ordre, tous ces problèmes qui sont réglés souvent par des lois somptuaires, ont paru aux générations suivantes ridicules. Et effectivement, elles étaient relativement peu appliquées, parce qu'on voit qu'elles sont renouvelées constamment, mais répondent à une sorte de besoin social de l'époque, parce que, au fond, la politesse, c'est l'art de simplifier et de catégoriser définitivement les rapports sociaux, ce qui épargne les ambiguïtés et les conflits. La postérité a vu surtout l'aspect qui était conventionnel, si vous voulez, de la vie de cour, avec ses hypocrisies et ses mensonges. Mais il y a aussi, et c'était ça la raison essentielle, un besoin d'ordre et de politesse dans les comportements humains, de voisinage, de quotidien, qui correspond là à une évolution, à un gain de politesse qui est propre au XVIIe siècle et qui est propre, on dira, à l'évolution des mœurs, mais aussi à l'évolution aussi du christianisme et en France de l'application, d'une nouvelle dignité du clergé à la suite de l'application des canons du Concile de Trente, qui fait que le niveau du clergé est beaucoup plus élevé, l'épiscopat est beaucoup plus spirituel, et font qu'il y a un encadrement, il y a un changement d'attitude sociale qui est très, très fort au cours de la fin du XVIIe siècle.
C'est un changement qui touche donc les... les institutions, notamment avec la volonté de rassembler la cour en un lieu unique, moins mobile qu'auparavant, mais vous semblez décrire aussi effectivement un mouvement général qui tend vers le raffinement.
On peut être partagé, bien sûr, dans l'exposé, c'est-à-dire, ou bien choisir de développer ce qui est propre à Louis XIV au cas français, et puis ce qui correspond à une norme de la deuxième partie du XVIIe siècle. Alors, en termes très généraux, je crois par exemple qu'il est important de souligner que la mode des duels, qui fait tuer des centaines de jeunes gens de noblesse ou de niveau social moyen dans la première partie du XVIIe siècle, s'estompe, en perd, mettons, de son intensité, non pas du fait des ordonnances royales qui ne sont pas appliquées, mais du fait d'un changement des mœurs, du changement du comportement religieux, d'un phénomène de conscience. La brutalité, mettons, de la vie quotidienne, les rapports entre les époux, des parents avec les enfants, des maîtres avec les domestiques, s'adoucissent, s'édulcorent, prennent un aspect. C'est là qu'on passe, si vous voulez, de le caractère rude, mettons, de la cour de Henri IV ou Louis XIII à l'idéal de l'honnête homme de la deuxième partie du XVIIe siècle. Alors, Louis XIV, maître à la cour, qu'il crée. Alors, vous avez évoqué, bien sûr, le fait de qui est nouveau, de cette concentration et de ce développement en même temps numérique de la cour et du choix de son implantation permanente à Versailles. Au XVe ou au XVIe siècle, les rois de France allaient de château en château pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'approvisionnement, pour obtenir les revenus, les récoltes des domaines. Ils circulaient à travers la Loire ou l'Île-de-France. Et puis, là, on a un phénomène tout à fait différent. Au lieu d'aller à Monceau, à Fontainebleau, là, on continue à y aller un peu, mais on va surtout à Versailles. À partir de 1682, la cour y est fixe. Et ça, c'est un phénomène tout à fait innovant et qui va servir d'exemple dans l'ensemble de l'Europe, puisque les autres couronnes prussiennes, suédoises, anglaises veulent avoir des châteaux de résidence qui deviennent là, à l'imitation du modèle français, des lieux de cour et de concentration du pouvoir. Alors la cour, c'est certes, c'est l'environnement du roi, l'environnement, je dirais, nécessaire, fonctionnel, et puis aussi, c'est devenu un lieu de promotion sociale, politique, mais commerciale aussi et artistique, parce que si on veut se faire connaître dans quelque domaine que ce soit, il faut passer par l'étape de la visite à la cour, de se faire reconnaître, aussi bien si vous êtes un fabricant de chapeaux de castor ou de roues de carrosse. Il faut que votre production soit reconnue, admise à la cour. Autrement dit, vous voyez, la cour, c'est beaucoup plus au-delà que d'un lieu de frivolité qu'on aime à représenter en images et en contes galants. C'est aussi, je dirais, un centre de production politique, économique et sociale.
Il s'agissait d'une volonté?
Oui, il s'agit d'une volonté. Alors, là aussi, on retrouve peut-être un trait de caractère propre à Louis XIV et qui est difficilement reconnu. C'est qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il aime être entouré. Toute sa vie, il déteste la solitude. À quelque heure de la journée que ce soit, il veut avoir autour de lui des serviteurs, des compagnons, des amis, des maîtresses, des épouses, des personnages fidèles sur lesquels il peut compter et qui se succèdent selon un certain ordre. On a dit, vous savez, que son emploi du temps pouvait être prévu à l'avance. Il suffisait de regarder l'heure, de savoir s'il s'occupait du conseil du roi ou s'il était en train de partir à la chasse ou de distribuer des biscuits à ses chiens avant d'aller se coucher. C'est vrai, mais c'est là encore un des aspects. Louis XIV, dans la mesure toujours où il a besoin d'être conforté, veut avoir ses repères. Et il est évident qu'il cherche un compagnonnage. Il a des amis, le marquis d'Anjou, le valet Bontemps, le contrôleur des finances Chamillard, qui sont véritablement des amis. Ils sont très peu nombreux, mais c'est un lien qui existe. Et il a aussi, et sans doute est-ce que ça vient de l'éducation de sa mère, très affectueuse, et qui est méditerranéenne, un sens de la solidarité familiale. Quoi qu'il pense de son frère, de ses belles-sœurs, de ses enfants ou de ses petits-enfants, dont il déprouve souvent, dont il regrette souvent les défauts, de caractère, les faiblesses, de comportement, il les aime. Et là aussi, c'est peut-être paradoxal de le dire, il a bon cœur. Par exemple, il trompe abondamment sa femme parce que c'est la pulsion de nature et qu'il est jeune et qu'il ne se soucie pas de se restreindre. Mais il ne veut pas humilier sa femme simplement parce que, d'une part, c'est aussi dégrader la gloire de la couronne dont elle participe, puisqu'elle est infante d'Espagne et qu'elle est reine de France, mais aussi parce que, effectivement, vis-à-vis de son frère homosexuel, de sa femme à laquelle il est abondamment infidèle, il témoigne une profonde, une sincère affection. Et c'est là, dans ce sens, qu'il faut comprendre son mariage morganatique très peu de temps après la mort de sa femme, avec Marie-Thérèse, avec Madame de Maintenon, qui est une sorte d'union de confiance. On sait que dans la familiarité, par plaisanterie, il l'appelait, il lui donnait le surnom de « votre solidité ». C'est-à-dire qu'elle représentait pour lui une référence. Elle était assise, même pas, il aimait à tenir des conseils en présence de Madame de Maintenon dans les années 1780-90, s'occupait à quelques travaux d'aiguille ou de dentelle. Elle ne disait rien, mais elle entendait tout. Et sa présence, pour lui, était une sorte de caution. Et je crois que ça vient pour confirmer cet aspect paradoxal. Il a besoin de compagnie, il a besoin d'être conforté, ce qui est après tout, là aussi, un trait compassionnel et humain qu'on peut comprendre.
En même temps, ses maîtresses et ses nombreuses relations, ses nombreuses conquêtes sont précisément aussi l'un des points de fixation à la fois de l'admiration populaire à travers les siècles et aussi un motif de critique très très fort. Quelle place tenait-elle réellement à la cour, dans son entourage ? Pesait-elle réellement sur les affaires du royaume ? Était-elle à l'origine d'intrigues, comme on a pu le croire, ou pas ?
Alors, il faut dire que, dès son plus jeune âge, Louis XIV est intéressé par tout ce qui, à l'entour, pouvait porter un jupon. C'est l'image qu'on trouve chez Don Juan. Et il était incontestablement un Don Juan. Et il a commencé à jeter des regards autour de lui sur les nièces de Mazarin, Olympe, Mancini, puis Marie Mancini, qui a été son amour
C'est une vraie histoire d'amour.
De 20 ans, amour contrarié, mais à laquelle il est resté fidèle pendant longtemps. Alors, il fallait qu'il se dégage de la tutelle encombrante de sa mère, du regard trop curieux des courtisans et de l'opinion. Opinion qui, en France et dans le monde chrétien, en Europe occidentale, a toujours été indulgente pour les frasques d'un jeune homme et d'un jeune prince. On le trouve ça constamment depuis les fabliaux du Moyen-Âge. C'est-à-dire que la maîtresse du roi, c'est une preuve de sa virilité, donc de sa capacité de commander et de gouverner. Donc elle ne lui sera pas, son dévergondage ne lui sera pas reproché en tant que tel. Ce que l'opinion va critiquer, c'est le choix de la reine elle-même, dans la mesure où elle est inévitablement, nécessairement, une princesse étrangère, que l'on va couvrir de toutes sortes d'accusations. Et toutes les reines de France, jusqu'à la malheureuse Marie-Antoinette, ont fait les frais de cette misogynie spontanée. Et là, a fortiori, les maîtresses, dont on suppose qu'elles vont dilapider les deniers de la couronne et qu'elles vont favoriser l'ascension de tel ou tel favori. En quelque sorte, l'opinion se comporte comme si elle était jalouse de la
faveur,
de l'honneur matrimonial, de l'honneur conjugal du roi. Et en ce sens, il y a une sorte d'identification au roi père, et c'est le regard que des enfants peuvent avoir vis-à-vis d'un père libertin dont les écarts de conduite font sourire et ne sont pas nécessairement condamnés par les enfants. L'opinion critique les maîtresses, mais ne reproche pas au roi d'avoir des maîtresses. Et ce qui sera reproché par la postérité, c'est l'union morganatique, régulière, elle, avec Madame de Maintenon, avec, au contraire, on le sait, tout cet aspect de stabilité, d'apaisement que savait inculquer cette dame qui était belle et intelligente. Elle était à ce moment-là âgée, mais elle avait été sans doute la maîtresse du roi beaucoup plus tôt. Hein. Et elle avait incontestablement été très belle, hein, dans son veuvage, comme elle était originaire elle avait passé une partie de son enfance à la Martinique. Après son veuvage du poète et romancier Scarron, on l'appelait à Paris la belle indienne. Donc, on la représente dans son vieil âge, mais elle avait été belle et est restée, en tout cas, très intelligente. Et alors, c'est ça qui lui est reproché dans le moment même et beaucoup dans la postérité, dans la mesure où, dans la fin du règne, où vont se succéder des guerres de plus en plus difficiles et des épisodes de disette et même de presque famine en 1694-15 et de nouveau en 1709, tous les malheurs de la fin du règne vont devoir lui être imputés. Dans la mesure où Louis XIV est irréprochable, c'est le grand roi, Voltaire l'admire, tout le monde a décidé qu'il était impossible de dire qu'il fallait qu'il soit génial. Si tout allait mal, il fallait bien trouver un responsable, donc c'était Madame de Maintenon.
Les offices de bouc émissaire.
Oui, et puis la tradition de cette misogynie française, alors un mot peut-être là sur Madame de Maintenon, dans l'histoire du féminisme, qui est, comme vous savez, un genre d'histoire qui se développait depuis 40-50 ans, surtout aux États-Unis. C'est-à-dire l'histoire du rôle particulier que peuvent avoir les femmes dans un temps de civilisation et l'évolution de leur statut, de leur type de comportement. C'est un genre historique qui a tout à fait sa légitimité. Et puis ensuite, au-delà de l'histoire du féminisme, du comportement des femmes, on peut imaginer une histoire des genres masculins et féminins, ça s'appelle la gender history, qui a sa justification anthropologique et qui n'a rien à faire avec le militantisme agressif que l'on voit se développer aujourd'hui. En fait, la gender history nous apprendrait pas grand-chose, mais elle est parfaitement justifiée scientifiquement. Alors, on doit écrire une histoire des femmes et une histoire des genres, on doit placer Madame de Maintenon très haut dans
les pionnières.
Chronique et pionnière, puisque c'est elle qui a créé en 1685 le modèle d'éducation des jeunes filles à Saint-Cyr, et non pas seulement vis-à-vis d'une aristocratie ou même d'une toute petite noblesse, mais même au même moment, elle encourageait l'éducation de petites écoles pour les filles des campagnes. Donc, Madame de Maintenon, je crois, là, on retrouve l'histoire de l'humanité. Moi, je crois que j'échappe, si vous voulez, à l'idée d'un roman national. Et là, je vais même jusqu'à l'histoire des genres et j'y place Madame de Maintenon en tête.
On quitte le roman national, mais pour participer au rayonnement de la France dans l'histoire mondiale.
Voilà.
Sur Louis XIV, vous avez parlé du rôle malheureux de bouc émissaire tenu par certaines de ses maîtresses, et notamment Madame de Maintenon.
Alors, Madame de Maintenon, je ne crois pas qu'on faille. Certes, il a certainement eu des liens intimes avec elle avant de l'épouser, mais je pense qu'elle n'a jamais eu ce statut de maîtresse qui était presque qui était reconnue à la cour, qui a été reconnue à Mademoiselle de Lavallière et à Madame de Montespan.
Alors, les femmes de son entourage pouvaient cristalliser des réactions hostiles, elles faisaient office de bouc émissaire. Lui-même ne rechignait pas à utiliser cette technique avec une certaine brutalité, bien qu'affable, on l'a vu, mais pour des raisons politiques, avec le cas de Nicolas Fouquet.
L'autorité de Louis XIV est exercée d'une manière, on peut le dire, selon les normes de l'époque, assez dure et dépourvue de compassion, puisque on a plusieurs exemples. Dès son avènement en 1662, il y a une révolte populaire en Boulonnais parce que c'est une province frontière des Pays-Bas espagnols et qui, à ce titre, est exemptée des tailles, des privilèges fiscaux importants, avec donc une exemption des tailles. À la suite du traité des Pyrénées et des acquisitions territoriales dans le Nord, le Boulonnais est privé de ses avantages fiscaux. Et ça provoque une révolte populaire, dite la révolte des Lustucrus, qui est écrasée et 600 paysans attroupés sont faits prisonniers et envoyés volontairement, très consciemment, par Colbert et Louis XIV aux galères à vie. Alors que dans les révoltes populaires précédentes, il y avait une répression militaire dans l'immédiat. Mais très vite, elle était suivie, un an après, généralement, de lettres d'abolition, c'est-à-dire qui, non seulement pardonnaient, exemptaient de poursuites des éventuels coupables, mais abolissaient l'existence même de la déviance, du crime. Il était interdit de poursuivre parce que le crime n'avait pas existé. Or, Louis XIV change totalement le style de la politique répressive. Alors, vis-à-vis de Fouquet, puisque c'est au même moment que se trouve l'arrestation du surintendant Fouquet, il faut se souvenir que Fouquet était depuis 1651, sur nomination de Mazarin, proposé par Mazarin, sur un surintendant des finances, c'est-à-dire il a continué une politique fiscale commencée sur Richelieu, qui était une gabégie sanglante qui ne vivait que du regrèvement constant des tailles et qui ne pouvait être perçu que par la force, que par un véritable terrorisme fiscal. Or, cette politique catastrophique, c'est elle qui a permis, si on peut dire, de venir à bout de la guerre, qui ne s'est achevée qu'en 1659, il fallait évidemment rompre la paix revenue avec ce style de comportement fiscal. Et Louis XIV a fait payer à Fouquet l'héritage de Mazarin. On ne pouvait pas incriminer la mémoire de Mazarin et la gigantesque fortune, la plus gigantesque de l'histoire de France, qu'il avait constituée au détriment du pays. On ne pouvait pas l'incriminer. Par conséquent, c'est Fouquet qui a payé pour Mazarin. Alors qu'il y a ensuite une vindicte particulière de Louis XIV, on le sait, puisque quelle qu'ait été la culpabilité, ou la maladresse, ou l'incapacité fiscale de Fouquet, il ne méritait pas plus la mort que d'autres ministres responsables. Et on voit que Louis XIV a transformé en aggravant les peines portées contre Fouquet. Alors là, on voit qu'il y a une volonté personnelle de répression qui est liée à sa conception de l'ordre. Et effectivement, au cours des premières décennies du règne personnel de Louis XIV, je veux dire dans les années 1660-1670, il y a encore un certain nombre de révoltes populaires importantes qui sont réprimées durement et qui vont être les dernières. Alors, d'une part, parce qu'il y a cette volonté répressive, il y a aussi que la génération nouvelle accepte ce principe d'ordre et que il y a la possibilité, du fait de la puissance de cette monarchie, de ce pays de 20 millions d'habitants et de ce jeune roi, de mieux concevoir les déplacements de troupes, d'organiser le secrétariat à la guerre pour permettre des itinéraires de déplacement des troupes, des itinéraires militaires, et ce qui est une invention méconnue, le principe des casernes, des casernements, c'est-à-dire de loger les soldats à travers, donc, quadriller l'ensemble des provinces, avec des dépôts donc de soldats habitant sur le pays. Et donc, capable d'envoyer immédiatement, en cas de désordre, de trouble, des éléments de maintien de l'ordre. Et ces casernes vont se développer très lentement, mais enfin, c'est une rupture par rapport à ce qui était le précédent, c'est ce qu'on appelait les logements des gens de guerre. C'est-à-dire qu'on faisait payer sur l'habitant les logements des troupes, ce qui était une source il y avait des règlements, mais c'était une source de désordre et d'affrontements et de révoltes populaires, aussi bien d'ailleurs en Allemagne ou en Espagne qu'en France. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît, qui va s'épuiser avec ces nouvelles politiques. Il y a une politique de l'ordre qui est logique et qui fait que les grandes révoltes populaires disparaissent au cours du règne de Louis XIV. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a ces moyens politiques et il y a aussi que l'opinion française s'accoutume à l'idée d'un paiement, d'une dette annuelle des sujets du royaume à l'État. C'est une nouveauté. Auparavant, on pensait que le roi pouvait vivre, comme on disait, du sien, du revenu de son domaine. Oui. Et là, je dirais que la périodicité annuelle de l'impôt et son universalité, avec les régimes du dixième et de la capitation, vont entrer dans les mœurs de manière, je dirais, malheureusement définitive.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement révélateur. Je vous pose une question sur Fouquet, et on en arrive à la modernisation de l'État. L'un et l'autre participent d'un même mouvement d'affirmation de l'autorité royale, mais aussi d'une forme d'État au sens propre du terme.
Alors, il est certain que c'est une phase qui est essentielle, la deuxième partie du XVIIe siècle, pour la construction de l'État, je dirais, centralisé à la française. Alors, quelle est la part personnelle de Louis XIV? Quelle est la part de l'évolution? Louis XIV est, je dirais, à l'unisson de sa génération, à l'unisson des gens qui ont 20 ans en 1658. Il est, parce que ces gens-là, ils en ont assez, si on peut dire, de leurs grands-parents ont fait les guerres de religion. Les parents ont fait les révoltes et les guerres civiles de la Fronde. Alors, ils sont avides d'ordre, de paix et d'incarnation de l'autorité, de centralisation dans la personne d'un jeune roi qui correspond à ce moment historique exceptionnel où le royaume, le territoire le plus peuplé de l'Europe a à sa tête un jeune souverain ambitieux, capable et entouré au fond d'une génération qui le porte, qui correspond, ou plutôt à laquelle il correspond lui-même, si vous voyez. Alors, il va effectivement avoir la confirmation d'un quadrillage du territoire par une administration fiscale et politique commandée dans chaque province par l'intendant et le gouverneur. Et ce système s'était esquissé, on peut le faire remonter à François Ier, à Henri II. On peut dire que déjà Henri IV a été également dans le bref temps de sa règne pacifique un roi centralisateur. Ensuite, la régence de Marie de Médicis est allée dans le même sens. Et puis, l'entrée en guerre avec Richelieu et Mazarin a fait arrêter tous ces projets de transformation. Et ils sont repris, les projets de Sully, de Marillac, sont repris avec l'administration colbertienne ou Louis XIVienne. Et on va donc vers cette systématisation, centralisation. Alors, le terme d'absolutisme, et il faut l'éviter dans la mesure où c'est une création, c'est un mot du 19e siècle. Et on disait absolu, mais absolu, ça voulait dire que le roi était absolutus legibus, c'est-à-dire délié des lois, puisqu'il c'est lui la loi. Par conséquent, il n'est pas contraint à la loi, il l'a dit. Alors, mais c'était un terme traditionnel qui n'était pas qui n'est pas né à ce moment-là. Ce qu'on peut dire, il faudrait mieux dire qu'on a un autoritarisme centralisateur, ça c'est ce qui correspond véritablement, et avec la fonction de finance au lieu de la fonction de justice dans les préoccupations principales de l'État. Et voilà, alors, est-ce que c'est une modernisation sans doute? Est-ce que c'est une préfiguration des transformations révolutionnaires et napoléoniennes? Oui, je le crois tout à fait, ça va dans le même sens. Mais avec, de la part de la génération de Louis XIV et de Louis XIV lui-même, plus de prudence. Et, par exemple, quelque chose dans lequel on fait moins attention, Louis XIV n'a supprimé aucun des grands pays d'État qui représentent plus d'un tiers du territoire. La Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Languedoc sont des pays, et les pays pyrénéens sont des pays d'État qui décident du montant de leurs impôts et qui administrent même leur recouvrement. Or, ils vont durer jusqu'à la Révolution. Et également, Louis XIV ne supprime aucun des petits privilèges des petits pays pyrénéens, des Quatre Vallées, du Magnoac, du Pays Basque, qui gardent leurs états, l'Assemblée du Pays Basque, du Pays de Labourd, le Bilsar, qui délibère en basque, va durer jusqu'à 1790, jusqu'à la Révolution. Et pourquoi ? Or, Colbert et Louvois auraient souhaité supprimer ces libertés pyrénéennes qu'ils jugeaient dangereuses pour les guerres contre l'Espagne. Or, Louis XIV les a maintenues volontairement, d'une part, parce que, alors on n'y fait pas attention, mais il a maintenu soigneusement le titre de roi de France et de Navarre. Et il a maintenu les privilèges des petits pyrénéens parce qu'ils étaient exactement symétriques de ce qu'on trouvait de l'autre côté des Pyrénées, en Navarre et dans les provinces basques espagnoles.
Oui, et s'ils n'avaient pas les maintenus, il y avait un risque que ces provinces se tournent vers l'Espagne.
Il y aurait eu une sorte de comparaison et d'un mécontentement de ces de ces provinces frontières qui ont toujours été, qui se considéraient comme françaises, de même que le Pays basque espagnol se considérait comme absolument sujet du roi d'Espagne. Mais il y avait bien sûr une solidarité frontalière, linguistique, culturelle, religieuse entre toutes les provinces basques.
Qui persiste encore aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, mais qui correspond à une réalité culturelle et transhistorique.
Vous avez parlé de sa prudence. En revanche, l'une de ses décisions les plus impopulaires qui lui est reprochée encore par-delà les siècles, c'est cette fameuse révocation de l'édit de Nantes. Et vous semblez dire que justement elle s'inscrit aussi dans cette volonté, peut-être dévoyée en l'occurrence, de rationalisation, de modernisation, de refus des ordres distincts de l'État, d'autonomie,
oui.
Et de raccrochement de l'ensemble du territoire au pouvoir central.
Oui, alors là, c'est le type même de problème sur lequel il faut parler avec, en pesant ses mots. Il n'est pas question de juger en histoire. C'est absurde de dire que, par exemple, Louis XIV n'aurait pas dû révoquer l'édit de Nantes, ou Robespierre n'aurait pas dû instituer la terreur, ou Napoléon n'aurait pas dû attaquer la Russie. Ben, il se trouve qu'ils l'ont fait. Donc, il s'agit donc de comprendre et d'expliquer. Juger, c'est foncièrement ridicule de juger le passé. Ceci dit, comment expliquer la révocation de l'édit de Nantes? Il y a premièrement l'idée que le protestantisme en France est supposé s'épuiser et qu'un très grand nombre de conversions dans la noblesse notamment montrent qu'il y avait toujours eu des conversions dans les deux sens. Hein. Mais que je dirais qu'à partir des années 50-60, c'est vraiment vers le plus grand nombre de conversions sont vers le catholicisme. Donc il y a pu avoir l'illusion que les communautés protestantes allaient peu à peu se restreindre et qu'il suffirait de quelques retouches réglementaires pour décourager et montrer l'intérêt de l'unité d'un royaume entièrement confiant dans une seule religion et un seul souverain. Alors, ça c'est la première illusion. Deuxièmement, il y a le fait que l'édit de Nantes n'était pas, contrairement à ce que on répète continuellement, une idée de tolérance. Il était basé sur l'idée d'équilibre et de résignation, dans la mesure où, après 30 ans de guerre de religion, chacun avait compris que la violence, la partie prise de la guerre, n'imposerait aucune des deux causes, catholiques ou protestantes, et qu'il fallait nécessairement coexister. Alors, cette coexistence, qui n'est pas une tolérance, qui est une habitude, c'est vrai, une prudence de comportement, a ses limites. Il n'y a jamais eu, en fait, de véritable pacification des esprits. Les mariages bigarrés, comme on disait, c'est-à-dire ont toujours été, c'est-à-dire réunions de gens de confessions différentes, ont toujours été condamnés par les communautés réciproques. Et l'édit de Nantes correspondait à l'idée d'une monarchie de France composée de corps et communautés agrégées, additionnées, coexistantes, chacune avec leur statut, leurs privilèges. Et la religion prétendue réformée constituait un ordre, une communauté du royaume de France, parmi ses nombreux états, ordres et statuts. Et les protestants français tenaient beaucoup à ce statut, à leurs libres assemblées, où était cependant un commissaire royal siégé, à la représentation auprès du roi d'un député des Églises réformées, à cette conception de mosaïque du pouvoir. Alors, elle est vraiment tout à fait antagoniste de l'idée louis-XIVienne de centralisation et d'unification. C'est pourquoi, après 1685, on voit des auteurs protestants en exil aux Provinces-Unies revendiquer le retour des États généraux et de la société d'ordre et d'État qui pouvait comprendre l'ordre protestant. Alors là, il y a vraiment un antagonisme politique qui n'a pas été, perçu souvent dans l'historiographie, mais qui, dans la conception Louis XIVienne, est certainement très important, puisque Louis XIV, je me répète, n'était pas un grand théologien, il avait aucune irrépété, ce qu'on voulait bien lui dire dans ce domaine, il avait surtout horreur des débats de fond. Donc, on peut certainement penser que ce qui a été essentiel pour lui, c'était l'idée d'unification politique. Alors, le résultat, on le sait, a été catastrophique, et il est scandaleux de notre point de vue moral, mais même déjà à l'époque, il était considéré par beaucoup de gens comme scandaleux, et on dira encore, selon en répétant un mot, c'est plus qu'un crime, c'est une erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est à partir de 1685 que la propagande anti-française des pays de l'Europe du Nord a été intense. Parce que le roi de France devenait non seulement un ambitieux qui voulait acquérir l'hégémonie de l'Europe, mais aussi un tyran qui persécutait ses sujets. Et s'ajoute le refus d'aider les impériaux contre l'invasion des Turcs en 1683, la prise des places de Luxembourg en pleine paix, le ravage du Palatinat en 1688 par les troupes françaises comme précaution pré-stratégique, l'ensemble et la révocation des Nantes, l'ensemble de ces événements font détester la France par toutes les puissances protestantes qui constituent donc à terme et deux fois une coalition presque transeuropéenne, catastrophique bien sûr pour les armes françaises.
En final, puisque finalement...
Mais Louis XIV n'a jamais regretté, il n'a jamais exprimé, il a sans doute constaté, dans la mesure où déjà, avant la fin de son règne, les clauses les plus restrictives et persécutrices de l'édit de Fontainebleau n'étaient plus appliquées, qu'elles étaient laissées souvent à l'initiative des magistrats, on peut dire que, implicitement, on peut imaginer qu'il aurait compris, enfin qu'il n'a pas ressenti de la même manière la justesse de ce procédé. Mais enfin, il n'a jamais dit le moindre mot de regret.
Et au final, puisque finalement un souverain doit se juger à son œuvre de souverain, un chapitre de toute une partie de votre livre est consacré à l'héritage. Quel est cet héritage ?
Alors,
peut-on en faire la balance, ou est-ce aussi un anachronisme ?
Ah oui, une balance est certainement un anachronisme, puisque c'est un aspect du jugement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a effectivement installé une conception centralisée du pouvoir en France, une conception unificatrice qui va se confirmer à la Révolution. Moi, je crois que Louis XIV est l'ancêtre de la Révolution française. Il y a une continuité véritablement dans le sens des mesures qui sont prises. D'autre part, il a porté ce royaume qui était le plus peuplé de l'Europe à un niveau de puissance inégalé. Si on considère que la construction de l'Hexagone et de frontières que l'on a dit naturelles au XIXe siècle, mais en fait, qui ont été empiriques, en fait, qui n'ont pas été recherchées de cette manière, c'est sous son règne que l'Alsace, le Roussillon, les Flandres ont été acquis à l'ensemble, à la nation, enfin à l'État français, au territoire français, avec bien sûr un certain nombre d'irrédentismes et de différences. Mais enfin, si on considère que la construction de cet hexagone fait partie des tendances longues, on peut les reconnaître qu'elles correspondent à cette époque. Voilà, et puis il est évident que c'est aussi un moment d'efflorescence des arts et des lettres, et chacun peut énumérer les grands artistes et les grands dramaturges, les formes de littérature qui sont d'expression artistique qui sont propres à cette époque. En ce sens, il y a un siècle de Louis XIV, c'est ce que dira Voltaire 50 ans plus tard. Et il dit qu'il y a dans l'histoire des personnages qui ont tellement marqué leur temps qu'on peut dire qu'il y a un siècle leur appartient. Et donc, il crée l'expression « le siècle de Louis XIV ». Et alors moi, je reviens à mon idée d'entrée de jeu, c'est-à-dire que Louis XIV, effectivement, le parangon du grand monarque dans l'histoire de l'humanité. Et ensuite, un modèle qui va durer au moins 200 ou 300 ans dans l'ensemble des États de l'Europe, puisque le despotisme éclairé et puis les révolutions centralisatrices du XIXe siècle, je dirais, sont dans la lignée des volontés, enfin des intuitions de Louis XIV et de sa génération.
Au-delà du personnage lui-même et donc même des restrictions du roman national, c'est une figure, vous l'avez dit, de l'histoire mondiale. Que conseillez-vous aux auditeurs qui nous écoutent, au-delà bien sûr de la lecture de votre propre ouvrage qui défriche très largement le sujet des idées reçues, que leur conseillez-vous pour creuser ce sujet focal de l'histoire mondiale ?
Alors, j'ai dans ce livre aussi donné une esquisse bibliographique des variations des historiens depuis Voltaire jusqu'à aujourd'hui, la manière de traiter le cas Louis XIV et le cas de la France Louis XIVienne. Je crois que désormais, c'est tout de même pas, Versailles n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'or le plus excellent, si on peut que dire, de l'aventure Louis XIVienne. Et les flots de millions de touristes qui viennent à Versailles spécialement, du monde entier, et qui considèrent qu'il s'agit là d'un élément essentiel de l'histoire du monde, nous confirme vraiment la réussite, si on peut dire, de l'exercice personnel de Louis XIV. Il s'est voulu, nec pluribus impar, égal à aucun, il a créé, si vous voulez, son image de roi soleil, il l'a voulu et il l'a réussi.
Merci Yves-Marie Verset. Au-delà donc des siècles, cet astre de l'histoire continue de nous éclairer. Votre livre me permet en revanche de le cerner avec ses parts d'ombre et de lumière, en toute vérité donc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet ouvrage aussi, dont je rappelle les références. Il s'agit du roi absolu, idée reçue sur Louis XIV, aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection donc justement Idée reçue. Merci beaucoup aux auditeurs aussi de leur fidélité. À bientôt.
Merci. Thank you.